nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, monsieur, bonjour. Le 40e anniversaire de mai 68 est partout. On peut s'interroger sur la vague médiatique soulevée par cet anniversaire, sur la prolifération des dictionnaires, des ouvrages rétrospectifs, mais tel n'est pas le propos de Canal Académie. Il ne s'agit pas non plus de disséquer ou d'analyser ce mouvement, mais en donnant la parole à ceux qui en ont été les témoins, d'en retracer une histoire vivante. Alors pour inaugurer cette série, j'ai le plaisir de recevoir Jean Tullard.
Merci.
Monsieur Tullard, bonjour. Faut-il encore vous présenter ? Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section Histoire. Vous êtes un des habitués du micro de Canal Académie, d'ailleurs. Et surtout pour votre expertise incontestable sur la période révolutionnaire et napoléonienne, mais aussi pour parler cinéma, autre de vos domaines de prédilection. Alors aujourd'hui, ce n'est ni l'historien ni le cinéphile que je reçois, mais le professeur, le jeune professeur au cœur de la tourmente estudiantine de 68. Alors première question, tout d'abord, où étiez-vous et quelles étaient vos fonctions à ce moment-là ?
En mai 1967, j'ai été élu à la Sorbonne comme directeur d'études à l'école pratique des hautes études avec une chaire qui venait d'être créée pour moi d'histoire du Premier Empire. J'étais très jeune, je n'étais passé ni par le secondaire, ni par l'assistanat, ni par le poste de maître assistant. D'emblée, très jeune, je recevais cette consécration. Et donc, si vous songez que j'étais à la Sorbonne, que la cinémathèque était mon endroit de prédilection, puisque vous évoquez mes sentiments cinéphiliques, la cinémathèque était rue d'Ulm, en même temps qu'au palais de Chaillot, et qu'il y avait, à mes yeux, le meilleur restaurant de Paris, le Balzar, à côté de la Sorbonne, je me trouvais béni des dieux, tout était réuni dans le même périmètre, je n'avais plus qu'à me laisser vivre, le paradis était sur terre.
Voilà.
En mai, ou plus exactement en avril 1968, c'est-à-dire un an plus tard, André Malraux eut la malencontreuse idée, mais qui était, il faut l'avouer, justifiée sur le plan financier, de reprendre en main la cinémathèque et d'en chasser Henri Langlois. Ce fut une petite révolution qui entraîna des manifestations et la fermeture de la cinémathèque. Plus de séances de cinéma. Vous me direz que ça me permettait ainsi de me consacrer mieux à mes cours. Quelques semaines après, la Sorbonne fermée à la suite de manifestations violentes. C'est-à-dire que je n'avais plus le cinéma et je n'avais pas non plus mon lieu professionnel. Ce qui était extrêmement inquiétant, c'est que les manifestants criaient « Abat l'université napoléonienne !» Ce qui signifiait qu'au pire ou au mieux, je ne sais, c'était ma chaire d'histoire du Premier Empire qui allait sauter au profit de chaires consacrées à la Commune, à la Révolution de 1848 et autres. Je me sentais directement visé. Des barricades entouraient la Sorbonne, l'accès au Balzar devenait impossible. Ainsi, vous voyez en deux mois comment le paradis peut se transformer en enfer. Alors, cette situation a été vécue de façon très étrange au sein de l'université. D'abord, les professeurs se téléphonaient, se retrouver, mais en dehors de la Sorbonne. Et personne ne comprenant rien à rien. Je me souviens d'un collègue qui disait « J'ai interrogé Pierre Renouvin ». Pierre Renouvin était une sorte de sommité de la Sorbonne, mais qui avait depuis longtemps décollé des réalités des choses. Et il m'a dit, Pierre Renouvin lui avait dit je ne sais trop quoi, mais qu'il ne changeait absolument et ne fournissait aucune explication particulière. Je me souviens qu'il y avait à l'école pratique des hautes études le père de Dainville, qui n'était pas encore titulaire, mais qui enseignait la cartographie historique. Père Dainville était un membre éminent de la Compagnie de Jésus et de la revue des études. Alors, le croisant, je l'interrogeais. On avait le sentiment que les jésuites savent tout. ils sont derrière tout. Et donc, je dis, mon père, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Et le père de Dainville fronce le sourcil et me dit, la Chine. Alors, j'ouvre des yeux comme des soucoupes, celle du Balzard. Et je lui dis, ah bon, la Chine? Oui, oui, la Chine. Et effectivement, il y avait Philippe Sellers, notamment, qui, avec les Maos Pontex ou je ne sais trop, invoquait l'autorité de Mao. Mais je restais extrêmement sceptique, parce que venait faire la Chine dans cette affaire. Et ce qui, pourtant, m'impressionnait, c'est parce que les jésuites sont censés tout savoir et qu'ils avaient évangélisé la Chine et que je me disais qu'ils avaient conservé un certain nombre de liens et que donc, eux, savaient que tout à coup, les Chinois allaient envahir la France. Ils n'avaient pas tort. Peu après, puisque vous évoquez le cinéma, j'ai vu La Chinoise de Godard. Et dans ce film, La Chinoise, vous trouvez tous les leitmotifs, tous les thèmes précisément qui étaient en cours pendant ces manifestations. Bref, y avait-il la Chine ou n'y avait-il pas la Chine? Je ne me suis jamais repenché sur ce problème, sauf quand on m'a demandé quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Alors était-ce précisément ce qu'avait prévu Napoléon? Et vous voyez, Napoléon a tout prévu. Mmh. Bref, laissons la Chine. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une désorganisation complète de la Sorbonne et un vent de panique sur la Sorbonne. Le secrétaire de l'école des hautes études, Michel Fleury, souhaitait, les locaux étant occupés, réunir malgré tout les collègues dans un lieu qui n'était pas occupé. Ce qui était très humiliant pour lui, c'était le Collège de France. Et il n'avait pas occupé le Collège de France et donc il décida de faire une assemblée des professeurs. Et comme j'étais jeune, comme mon goût pour le cinéma, pour le roman policier, laissez supposer que je vais avoir des sentiments de gauche, il me choisit pour convoquer les collègues. Alors, effectivement, au téléphone, j'appelais les collègues les uns après les autres pour leur dire « Venez à notre assemblée ». Et je me souviendrai toujours de ces membres de l'école des hautes études qui appartenaient à la maison où nous sommes. Il était secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il s'appelait Dupont-Sommer. Et donc, j'appelle cet homme éminent, considérable, et je dis, voilà, chers collègues, nous tenons une assemblée et je vous charge de vous demander d'y venir. Le mot « assemblée », ma voix jeune, le ton peut-être révolutionnaire, vous la déteignez peut-être sur moi, je sentis au bout du fil qu'il s'effondrait. Il n'avait nulle envie, étant un vieux réactionnaire, d'aller participer à ce mot d'assemblée qu'il lui évoquait, 1848, la commune, etc. Et donc il me dit, oui, oui, cher collègue, la voix tremblotante, il y avait l'âge, mais il y avait aussi la peur, la voix tremblotante me dit, oui, oui, je viendrai, mais ouh, je ne sais pas, je crois qu'il y a une réunion des antiquités assyro-babyloniennes, pilas, ah, que je suis, mais vous savez, je suis de tout cœur avec vous, sur une voix très onctueuse. Et puis, il me dit, et là, je vois que ses réflexes revenaient, pouvez-vous, cher collègue, me rappeler votre nom? Et je voyais déjà la répression qui allait suivre, et où il allait se venger de sa peur. Bref,
l'assemblée a eu lieu.
L'assemblée a eu lieu, elle se passa fort bien, et peu après...
Qu'est-ce que vous y avez décidé?
Décidé de continuer les cours malgré tout. Il n'y avait aucune volonté de solidarité avec les manifestants. L'école des hautes études, qui était la quatrième section, différente de la sixième, c'est la sixième qui était révolutionnaire, et pas nous. Mais l'idée du président était qu'il fallait nous réformer, nous, qui n'étions pas contestés, car l'école d'études n'est pas contestée, c'était des érudits savants, Louis Robert, enfin tous les grands noms de l'Académie des inscriptions et belles-lettres étaient là. Et donc, on n'était pas contestés, puisque la moyenne d'âge des gens était très élevée, c'était des chercheurs confirmés, mais nous nous trouvions dans cette situation épouvantable. La quatrième section n'étant pas contestée, c'est comme dans un couvent. Les soudards arrivent, violent toutes les religieuses, sauf une. c'est celle qui n'a pas été violée, qui est déshonorée. Et donc, l'idée de Michel Fleury était qu'il fallait contester, puisque j'étais le plus jeune, c'est moi qui devais contester. Et donc, je prenais des allures révolutionnaires. Sentons bien, parce que j'ai une expérience de l'histoire, que les révolutions finissent mal, en me disant, ils exagèrent, Fleury, parce que c'est moi qui vais tout prendre après, je vais me faire virer, etc. Alors, je tenais des propos très, très enveloppés, très sibyllins. Et donc, finalement, alors que j'étais au comble du désespoir, finalement, les choses se sont arrangées.
Assez vite, finalement.
La Cinémathèque a
réouvert ses portes.
Comme il y avait eu cette révolution universitaire, l'université a explosé. Elle est devenue Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4. Et alors que je n'étais que directeur de l'école pratique des hautes études, je me suis retrouvé professeur à l'université de Paris 4, c'est-à-dire combinant la recherche pointue et puis les amphis avec les étudiants. Et le Balzar a rouvert ses portes avec un revenu amélioré. Vous voyez donc qu'il n'y a pas lieu de désespérer dans les événements les plus révolutionnaires. Et c'est quelqu'un qui a admirablement tiré les leçons de cette affaire. J'avais invité à venir dans mon séminaire un historien anglais qui s'appelle toujours William Smith, qui a écrit un très beau Napoléon III, qui avait écrit, et il était venu à Paris. Ses cours étaient prévus pour le mois de mai. Alors, il n'a pas pu les faire. Je l'appelle et je lui dis, cher collègue, vous savez, je suis profondément navré, ennuyé que vous soyez venu et que vous n'ayez pas pu faire ces cours. Je vous présente toutes mes excuses. Je préparais déjà la répression. Et je lui dis, donc, je suis vraiment navré. Et il me dit, mais ne le soyez pas. Au contraire, je vous en serai éternellement reconnaissant, car je suis venu à Paris, j'ai vu les événements et j'ai enfin compris ce qu'était la Commune.
Merci beaucoup, Monsieur Tullard, pour votre témoignage sur ces événements de mai 68. Au revoir et restez bien à l'écoute de Canal Académie.